Cyril Zimmermann, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le CEO de Hadux. On va parler avec vous de votre stratégie perspective au Forum Ports en Parc où vous rencontrez des investisseurs avec, alors, on va en reparler concrètement, un vrai nouveau positionnement de la société. Quand on regarde le positionnement que vous aviez sur les régies publicitaires, hein, c'était votre cœur de métier, à quel moment il a fallu vraiment changer? Bon, bien sûr, il y a des chiffres, mais qu'est-ce qui vous a conduit à changer? C'est le comportement des consommateurs? C'est le marché lui-même?
Il y a différents aspects. Il y a un aspect comportement du consommateur, effectivement, parce qu'on s'est rendu compte que le marché de la publicité digitale, ce n'était pas un jeu à deux entre l'annonceur d'un côté et la régie de l'autre, mais un jeu à trois, le troisième larron étant l'utilisateur. À partir du moment où l'utilisateur trouve qu'il y a trop de publicité, il peut voter avec ses pieds, installer un adblock, et à ce moment-là, il n'y a plus de marché. Donc, il y avait la notion de publicité responsable, ou en tout cas qui respectait l'expérience utilisateur, qui commençait à faire jour et qui nous amenait quand même à réfléchir sur la pérennité de ce qu'on faisait et la façon dont il fallait le réformer. C'est rajouté à ça un élément qui était beaucoup plus immédiat et sur lequel il a fallu réagir encore plus vite, qui était la compétition des grandes plateformes Google, Facebook et autres, qui ne nous permettait plus de nous positionner comme un agrégateur qui tirait sa valeur de la volumétrie qui était agrégée, ce qui nous a fait, vivre dans les années 2000 et début de 2010, ne pouvait plus continuer à exister. Et il a fallu se réinventer en trouvant un autre type de valeur ajoutée, basée plus sur des capacités technologiques à traiter soit certains types de formats, soit certains types de ciblage, soit certains types de complémentarité avec les plateformes que sont Google et Facebook pour être complémentaires et non pas frontales, sinon il n'y avait pas beaucoup de futur pour nous, et le faire avec la prise de conscience que quoi qu'on fasse en termes de ciblage et de format, il fallait qu'on soit en respect de l'attente des utilisateurs et de ce qu'ils pouvaient accepter ou pas en termes de publicité.
Ça veut dire concrètement plus de technologie aussi, plus de réflexion pour amener, parce que quand on parle de publicité non intrusive aujourd'hui, c'est ça aussi, il faut savoir se placer. On l'a quand on est sur les réseaux sociaux, on voit des publicités qui arrivent, mais il faut avoir la technologie pour y être.
Exactement, il y a des maillons technologiques dont on s'est équipé et qu'on a construit en interne dans les 4 dernières années que nous n'avions pas auparavant. Donc on est devenu une société beaucoup plus technologique et beaucoup moins axée sur le côté grossiste et volumétrie qu'on l'était avant. Donc ça a nécessité un réajustement de positionnement, ça a occasionné des changements de périmètre, des cessions d'actifs, des fermetures d'activités et l'ouverture de beaucoup d'autres qui aujourd'hui représentent plus de 70% de notre activité. Et c'est sur cette base-là qu'on a construit la nouvelle société qui s'appelle Hadux, anciennement Emedia, et qui repart en croissance en 2018.
Alors, il y a eu effectivement plusieurs activités dans ce que vous présentez. Il y a aussi il y a cette publicité, ce type de publicité. Les autres, tous les marchés, comment ils évoluent? Parce que est-ce que le marché en 2018 sera plus favorable?
Le marché, globalement, n'a pas arrêté d'être favorable. Simplement, il y a eu des vases communicants avec certains segments de la publicité qui se sont écroulés, notamment le marché de la publicité display, et d'autres marchés, comme la publicité native, sur lequel on s'est positionné avec notre filiale Quantum, qui ont surgi et qui aujourd'hui représentent un dynamisme qui se vérifie tous les mois. Il y a d'autres segments qui sont apparus, comme ceux du drive-to-store, donc le géomarketing qui permet de concurrencer un peu l'affichage et la radio, qui étaient les médias locaux par excellence, qui travaillent avec les distributeurs. Aujourd'hui, le téléphone mobile est un support de diffusion média qui permet de faire de la publicité adressée, géolocalisée, efficace pour les distributeurs. Et enfin, la troisième option, c'est de travailler avec les réseaux sociaux qui ne se positionnent pas comme médias, mais comme distributeurs de contenu, pour créer du contenu de marque qui permet aux marques d'exister sur les réseaux sociaux avec le niveau d'engagement qui fait que leur présence est utile et plébiscitée par les utilisateurs.
Quand on regarde les résultats, vos derniers résultats, ils avaient été affectés donc par ces changements et l'activité était en repli. Vous dites quand même qu'en 2018, vous devriez repartir en croissance d'activité?
L'activité était en repli dans les exercices précédents parce qu'on avait à la fois un ascenseur qui descendait, qui était celui de nos activités historiques, un ascenseur qui montait, qui était fait des trois activités natives, géomarketing et brand content, que je viens de citer. On a coupé le cordon et on a vendu, cédé, fermé les activités qui étaient dans l'ascenseur qui descendait. Et donc, de fait, en 2018, on l'a annoncé d'ailleurs il y a 10 jours, sur le premier trimestre, en fait, on sera en croissance parce que le dynamisme de ces activités-là fait que le reliquat d'activités résiduelles, en fait, ne pondère plus l'ensemble à la baisse. Donc, on est sur un nouveau périmètre qui s'est allégé de l'ancien et qui aujourd'hui est en croissance.
Les investisseurs, ils vont être bien sûr focalisés aussi sur les marges. Est-ce que les marges vont être meilleures avec ce positionnement, le nouveau positionnement du groupe?
Pendant 3 ans, on a travaillé sur les coûts. Donc, on a géré la société par les coûts, on les a fait diminuer. On a travaillé aussi sur nos marges. Elles sont stables, en fait, et les niveaux, en fait, de marge qu'on a sur le chiffre d'affaires sont stables, en fait, depuis 3 ans. Donc, à partir de ce moment, dès qu'on retrouve de la progression dans le chiffre d'affaires, ça vient alimenter la marge dans une proportion stable et ça vient alimenter, en fait, le résultat d'exploitation. Et on est aujourd'hui sur des niveaux qui nous permettent d'envisager de redevenir rentable à un horizon court et confirmer, en fait, les objectifs qu'on s'est donnés, qui est de produire un EBITDA de 10 à 12% en fait pour la société dans les années qui viennent.
Du côté toujours des perspectives, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes du coup focalisé sur cette croissance organique à partir des activités que vous avez évoquées, ou vous regardez aussi et vous avez est-ce que vous avez les moyens financiers de regarder un certain nombre de croissances externes?
On regarde la croissance organique parce qu'on s'est réinventé en tant que société des technologies et donc c'est plus facile pour nous d'ajouter du chiffre d'affaires à partir d'une technologie au fait qui est la même plutôt que d'ajouter d'autres maillons qui peuvent être disparates en termes de technologie et qui provoqueraient de la complexité si on devait les fusionner. Donc notre priorité et notre unique souci, c'est la croissance organique.
Vous parliez tout à l'heure de Google, où on peut parler des réseaux sociaux comme Facebook, qui peuvent changer, on pourrait presque dire du jour au lendemain, hein, certaines règles qui servaient alors les éditeurs, les annonceurs. On sait que tout le monde est aujourd'hui tributaire des uns et des autres. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les outils que vous avez, vous vous sentez à l'aise, on va dire, si dans quelques mois, Google ou Facebook changeaient la donne à nouveau?
On ne peut jamais en fait savoir exactement ce qui va se passer, mais dans notre repositionnement, on s'est focalisé sur un, le fait de ne pas être en concurrence avec ces acteurs, mais d'être en complémentarité, et de ne pas être en dépendance, mais d'arriver en fait à créer de la valeur indépendamment des règles en fait qui sont les leurs et qui peuvent changer. On sait que ces règles peuvent changer, on l'a vu par le passé, on le verra dans le futur. Après, peut-être en fait qu'il y a certaines choses qu'on n'a pas prévues, mais autant qu'on puisse en juger, on a construit notre modèle pour qu'il soit stable indépendamment des changements en fait des algorithmes des uns et des autres.
Il n'y a plus de cession d'actifs aujourd'hui, quasiment, pour vous?
Écoutez, il peut y avoir en fait quelques petits accords en fait sur des actifs résiduels en fait de régie publicitaire historique, mais on les a gardés parce que ces activités maintenant étaient devenues en fait profitables. Si demain on a une offre, on pourra les regarder, mais le périmètre tel qu'on l'a bâti au 31 décembre 2017 est celui auquel on voulait arriver. On peut toujours l'optimiser marginalement, mais ça sera ultra marginal.
Et il y avait bien entendu un dossier qui avait suscité alors à la fois des sujets sur l'actionnariat et sur votre stratégie, IP. Où en êtes-vous sur ce, dans, dans, pour ce, cette société?
On avait coté IPay en 2015 et on avait cédé 80% du capital en rémunérant nos actionnaires. Donc on avait distribué près de 60 millions d'euros à nos actionnaires. Ensuite, en fait, il y a eu effectivement une petite bataille en fait pour le contrôle de IPay. On a réussi en fait à le céder au prix auquel on voulait le céder et donc on a confirmé en fait ce qui était notre engagement de départ, c'était de céder cette activité pour revenir à une activité purement publicitaire, ce qui est le cas aujourd'hui.
Merci Cyril Zimmermann.
Merci beaucoup.